nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, La troisième époque de violence et crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Personne vous ennuyer, merci, interdit de vous voir, et il la laisse. Elle mange avec un bon appétit, et se dit que déjà, elle est sortie de sa chambre, lui est arrivé des tas d'aventures. Oui, depuis qu'elle est sortie de sa chambre, de ses parents, lui est arrivé des tas d'aventures. Le trajet se passe bien. Et le bateau arrive à Abidjan. Elle a été remise dans sa caisse. Arrivé à Abidjan, un camion la prend. Pour l'amener en pleine brousse. Elle est sortie de sa caisse dans une chambre décorée à l'africaine. C'est Armand qui a prévenu tout le monde. Elle aura une domesticité. Elle devra être servie comme une reine, mais interdiction absolue de sortir. Et personne ne doit l'embêter. Thank you. Elles en vivent désormais comme ça, recluses. Les jours passent et plus personne n'a de nouvelles de la jeune fille. On considère Sophia comme disparue définitivement. Gilbert, en voyant Nathalie, lui dit « Elle a disparu. Comme ça, tu n'as plus à être jalouse d'elle. » Nathalie lui dit « J'ai du remords d'avoir été méchante. Et puis, c'était une brave fille. Elle n'a pas eu de chance. C'était plus une victime qu'autre chose. » Gilbert lui dit « Oui, elle a été la victime de nos parents. Ils ont fait croire à des choses. » Nathalie lui dit « C'est ta mère surtout qui a manigancé tout ça. » Elle voulait s'est éloignée, que je m'éloigne de toi. Je ne comprends pas sa haine qu'elle a pour moi. Mais ils n'ont pas réussi à nous séparer. Le pape est inquiet, et on dit que l'on risque de faire chanter, c'est que c'est pour ça que l'on séquestre sa petite nièce. Les Américains restent sur leur garde, mais font comme s'ils avaient oublié l'affaire, parce qu'ils ont besoin de la France pour la construction de leur ville. Maurice ne pense plus à cette histoire. Pour lui, ce sont des histoires de bonnes femmes. Charlotte y pense encore. Elle se sent humiliée. Elle n'aimerait pas que son mari lui fasse des reproches. Elle se dit qu'elle n'est pas la femme d'un épicier et qu'elle a droit à des égards. Elle se dit qu'elle est un peu comme une reine. Monsieur de Gengy, qui a appris tout ça, est très ennuyé. Il a appris à Lyon, chez lui. Il n'a pas osé intervenir. Il se disait que tout le monde devait être en colère contre lui. Parce que c'était lui qui avait eu cette stupidité. Le pape devait être furieux. Il a failli faire une guerre entre la France et l'Amérique. Maintenant que l'orage est passé, il peut refaire surface et se sentir le courage de présenter ses excuses et d'affronter les colères. Monsieur de Gengy est un vieil homme. Il ne supporte pas les ennuis de la vie. Il a besoin de calme. Maintenant, il aimerait vivre comme les hautes bords, en dehors du monde, au milieu d'œuvres d'art, de musique, de livres. ce repos, il faut qu'il mette en ordre certaines choses. Il aimerait que Gilbert, qui pour lui a remplacé dans son corps, où il a été plutôt à côté de Charles, que Gilbert puisse être heureux dans ce monde. Et lorsqu'il revoit qu'il n'a pas été heureux, il disparaîtra à jamais en le gardant dans son corps près de Charles. C'est la seule joie qui lui reste. Pour lui, Gilbert est le dernier des dieux, ou plutôt le dernier fils des dieux. Après lui, il n'y en aura plus. Les hommes resteront entre eux médiocres et faibles. Mais avant le grand crépuscule des dieux, le dernier fils des dieux doit éliminer l'ennemi de sa lumière. Doit illuminer le monde de sa lumière. Et lorsque sa lumière s'éteindra, que le livre retournera dans le lac de Montrion, que le lac gardera pour toujours et emprisonnera à jamais les dieux de cette histoire. Et commencera la fin de l'Occident. Alors, la lumière s'éteindra, l'univers, la terre tombera dans la nuit, une nuit glacée et humide, où les humains deviendront bêtes, cannibales, se tueront entre eux. Voilà à quoi pense, malgré lui, Monsieur de Janjus, chez lui, à Lyon. Il ne sait pas d'où viennent ses pensées, mais quelque chose lui dit que c'est la vérité. Et qu'on les lui apporte, parce que lui aussi fait partie du grand livre, et que peut-être il est le fils d'un dieu, de la race prodigieuse. Il sourit en pensant à tout ça dans son fauteuil et se dit qu'il rêve. Mais quelque chose d'insignifiant lui revient du profond de lui-même. Et il est poussé par l'amour qu'il a pour Gilbert, lui dit que c'est la vérité, que son dernier rôle est d'aider Gilbert. Qu'il ne peut avoir de paix autrement. Il se dit aussi que cette paix, même cette paix-là, n'est pas une paix comme les autres. Cette paix qu'il désire est la paix, le besoin de refuge des dieux, le retour à l'Olympe, le retour vers ses frères. Vers un monde fait pour eux, un monde plein de merveilleuses créatures, de merveilleuses créations. La seule création qui soit indispensable aux dieux est celle de l'art, puisque les dieux n'ont ni faim, ni soif, ni froid, ni chaud, n'ont que besoin, c'est celui de l'art, parce que le but des dieux, c'est la recherche de l'absolu, et que cet absolu ne peut se faire que par l'art. Monsieur de Saint-Just dit qu'il aime tous les arts et qu'il fait partie de leur famille. Il se sourit et se dit que tous ses pensées sont très pathétiques. Il devrait essayer de les écrire, puisqu'il doit aider Gilbert, il va aller à Paris. Il faut qu'il se fasse pardonner. Il écrit à Charlotte, qui sera de passage à Paris la semaine suivante. Et qu'il ira lui présenter ses hommages. Lorsque Charlotte reçoit la lettre, elle se souvient que c'est lui qui les a mis dans cette histoire de mariage stupide. Elle lui en veut. Gilbert. Et le dernier dieu, ou plutôt le dernier fils des dieux. Après lui, il n'y en aura plus. Les humains resteront entre eux, médiocres et faibles. Mais avant le grand crépuscule des dieux, le dernier fils des dieux doit illuminer l'univers de sa lumière. Et lorsque sa lumière s'étendra, que le livre retournera dans le lac de Montrion, que le lac gardera pour toujours, il emprisonnera à jamais les dieux de cette histoire et annoncera la fin de l'Occident. Alors, l'univers, la terre, sombra dans la nuit. Une nuit glacée et humide, terrible, où les humains redeviendront bêtes, cannibales, et s'entretueront. Voilà à quoi pense Monsieur de Saint-Just avant de prendre son train. Il va prendre son train à la gare de Lapardieu. Entre dans le train, première place, un compartiment où il est seul. Il y a du monde qui prenne le train. Tu es déjà en jus ? Entend la porte de son compartiment s'ouvrir. Il se retourne et voit entrer un jeune homme de taille moyenne, mince, cheveux châtains clairs, peau très blanche, visage très enfant, yeux marron, petit nez. Il est habillé d'un pantalon et d'un blouson noir. Bonjour, je peux m'asseoir en face de vous ? Oui, bien sûr. Et il s'assoit. Jean-Ju est troublé par ce jeune homme. Le train commence à partir. Il sort de la gare. Tout doucement, le Rhône, la banlieue de Lyon, le jeune homme lui demande « Vous allez à Paris ?» Monsieur Jean-Ju lui dit « Oui, et vous aussi je suppose. Oui, j'y vais travailler. Je suis peintre et j'ai été embauché par la maison Franblanc. Il y a beaucoup de travail là-bas. Je compte pour faire de l'argent. Je vais en plus travailler au noir. Il y a des gens qui sont très riches et qui me font faire leur appartement. Il n'y a que l'argent qui compte. Il m'en faut beaucoup. J'ai déjà acheté un studio que je vais louer. Je connais un copain qui a 10 appartements, il a lui fait un sacré bénéfice. Moi je vais faire la même chose. Et Jean-Ju lui dit, c'est bien ça. Vous vivez seul ? Non, avec une copine. Mais nous allons nous marier et à 30 ans, tu vois 22. Jean-Ju lui dit, vous êtes beaucoup plus jeune. Oui, je sais. Monsieur Jean-Ju se dit, c'est fou. Que les jeunes et beaux garçons sont mal assortis avec leurs femmes. Il faut toujours qu'ils choisissent des femmes vieilles et laides. Le jeune lui dit, ma femme travaille dans une banque et son père est notaire. Le Jean-Ju se dit, le pauvre, le profit, il est avec elle. Il lui demande, à part l'argent, qu'est-ce que vous aimez dans la vie ? Le jeune réfléchit, et lui dit « Rien ». Jean-Ju se dit « Ne pense qu'à l'argent, attention, de ne pas tomber dans son piège, qu'il me fasse chanter. Trop de génération, l'argent. Avant, il y avait un peu la drogue et le sexe. Maintenant, il ne reste plus que l'argent. » Jean-Ju le trouve joli garçon, la taille bien mise, le visage agréable à voir. Il se demande comment il doit être nu. Un corps sûrement un peu enfant. Il ne sait quoi lui dire à ce jeune homme qui ne pense qu'à l'argent. Le jeune lui demande, « Et vous, vous faites quoi ?» Ce Jean-Ju lui dit, « Moi, je ne fais rien. Ou plutôt, j'aide encore de temps en temps des gens qui disons, je suis un peu comme un ambassadeur extraordinaire de personnalité pour aider à régler certaines choses. Mais je n'ai jamais eu de vrai travail dans ma vie. J'ai beaucoup voyagé, écrit. Je me suis instruit. J'ai connu des tas de personnes. Voilà. Je l'homme lui demande. Vous avez de la famille ? Non, je suis seul. Personne. Un vieil homme célibataire. personne. J'ai aimé des tas de gens. Tous ceux que j'ai connus ont disparu. Voilà ce que c'est que de vivre vieux. Je n'ai plus de projet, plus rien. Et je leur dis, faut pas être triste. Moi, mon grand-père a décidé de construire une maison. Il n'est jamais trop tard pour faire quelque chose. Monsieur Jean-Jean lui dit, merci. Remarquez, j'ai tout de même un projet. C'est celui de me retirer du monde et de vivre en paix. Le jeune homme lui dit, se retirer du monde? Et alors qu'il y a tellement de choses à faire, vous devriez vivre, aller de l'avant. Merci. Monsieur Jean-Jean voit qu'il a déjà pris une petite main fine, fine, comme celle d'un enfant. Le jeune homme tousse. Monsieur Jean-Jean lui demande, vous avez plus froid? J'ai un peu mal à la gorge. De la fièvre? Monsieur Jean-Jean lui touche le front et le visage. Et la peau douce et très fine qui se laisse faire. Monsieur de Jean-Jules lui dit, vous n'avez pas de fièvre. Je n'ai jamais de fièvre. Vous devriez, c'est mieux, vous habiller. Monsieur de Jean-Jus lui prend les mains. Elles sont douces et chaudes, toutes maigres. Monsieur de Jean-Jus se dit que certaines personnes sans le sexe, ça ne les intéresse pas. Ils ne sont pas attirés par ces choses. Ça n'en fait aucun effet. Ils ont l'esprit pris sur autre chose. Et ce jeune homme, le sexe, n'existe pas. Il a le plaisir juste pour faire avancer la chose avec sa copine. Il le fait pour le plaisir. Pas pour le plaisir, mais pour lui faire plaisir. C'est ce cadeau gratuit qu'il lui donne. Et c'est même le seul cadeau qu'il lui donne. C'est du sexe. Mais pour lui, ce n'est rien. Ça ne l'intéresse pas. Le train file, le temps passe, il fait nuit. On entend dans le couloir que le dîner va être servi dans le wagon restaurant. Monsieur Jean-Jules lui demande, vous voulez dîner? Le jeune homme lui dit, je ne sais pas, c'est moi qui paye le repas. Allez, venez, vous tiendrez compagnie. Jean-Jules se lève. Le jeune homme aussi, et il sort du compartiment. Arrivé au wagon restaurant, ils s'assoient Un serveur vient vers eux, leur présente la carte. Dujanju demande au jeune homme. Choisissez. Je prendrai comme vous. J'aime tout. Dujanju fait la commande et commande du Bourgogne. Pendant le repas, le jeune homme ne boit que de l'eau. Dujanju lui demande, vous appelez comment ? Sébastien. Mère. Moi, monsieur Dujanju. Après un voyage qui a été tout de même fatigant parce qu'il a duré un peu trop long, ils arrivent à la gare de Lyon à Paris. Il fait nuit, sortent du wagon. La gare est presque vide. Il y a des SDF à terre qui dorment, c'est sale, ça sent mauvais, c'est triste. Ils sortent de la gare. Monsieur Dujanju lui dit, je prends un taxi. Vous allez où ? Le jeune homme, Sébastien, lui dit, je ne sais pas. Vous ne savez pas où aller ? Non. Mais, on vous a dit de venir à Paris, comme ça ? Oui, j'étais embauché à Lyon, et l'on m'a dit de me présenter au siège, et voilà. Dujanju lui dit, à cette heure, c'est impossible de trouver une chambre. Comment allez-vous faire ? Sébastien lui dit, je ne sais pas. Vous pouvez rester comme ça dehors, c'est trop dangereux. Mais on risque de vous faire attaquer et même tuer. Il y a des bandes de tueurs SDF. Vous ne pouvez pas passer la nuit dehors, c'est la mort. Écoutez-moi, ce soir, si vous le désirez, je vous héberge pour cette nuit à mon hôtel. De toute façon, vous ne pouvez pas aller ailleurs. Sébastien lui dit, merci, je veux bien. Bien, allons prendre un taxi. Et ils vont les arrêts de station de taxi. Il n'y a plus personne. Alors, ils entrent dans un taxi. Monsieur Dujanju donne l'adresse de son hôtel, place de l'Étoile. Arrivés devant l'hôtel, après avoir payé le taxi, ils sortent du taxi. Et M. de Janjou le fait entrer dans l'hôtel. Ils vont à l'accueil. Un homme à cheveux gris, visage osseux, est à l'accueil, habillé en concierge d'hôtel, costume bordeaux. Monsieur, vous désirez...
Bonjour monsieur, je suis monsieur de Janjou. J'ai réservé une chambre pour ce soir.
L'homme regarde sur son écran. Et lui dit, oui monsieur, vous avez la suite 45. Il sonne pour faire venir le groom. Un jeune homme dans les 15 ans, habillé en groom, bordeaux, vient à eux. Il prend les valises. Monsieur Janjou dit au concierge, pour ce soir, je passe la soirée dans ma chambre avec ce jeune homme. Le concierge lui dit, bien monsieur. Et le groom dit, veuillez nous suivre messieurs. Et ils suivent le groom. Qui les mène à l'ascenseur. La chambre est au 5e étage, qui est le dernier. Sortent de l'ascenseur, longent un couloir où il y a plein de portes, et le groupe va ouvrir une porte. C'est une suite. Il est clair, entrez messieurs, ils entrent. Salon, chambre, salle de bain, balcon, meublé Louis XV, grand beau. Les tapisseries sont beige. Le salon a une cheminée de marbre. Le groom leur montre tout ça. La salle de bain est de marbre rose. Cela vous convient-il ?
Oui, très bien, merci.
Le groom met les valises dans la chambre et sort. Sébastien regarde tout ça. On frappe à la porte.
Entrez.
C'est la bonne. Bonjour monsieur, je viens vous aider pour les bagages. Et elle va à la chambre. Après avoir pris leur douche, ils sont couchés. M. de Janjou a improvisé un lit avec une couverture et il s'est couché dedans. Il s'est plutôt emmitouflé dedans. La nuit, il n'arrive pas à dormir. C'est parce qu'il sent Sébastien dans la chambre, à côté de lui. Il ne peut s'empêcher d'imaginer ce corps nu sous les draps. Enfin, le jour paraît, il a froid et est tout courbaturé. Il se dit qu'il n'est plus en âge de faire ça, que c'est ridicule de désirer un jeune garçon, lui, un si vieux garçon. Mais puisqu'il se dit faire partie de la famille des dieux, l'âge ne compte pas, ni le sexe, seule la beauté compte. La lumière du jour le réveille complètement. Il se lève, puis à couverture, il a froid. Et va dans la salle de bain, prendre une douche. Une bonne douche bien chaude. Après, il se sentira bien. Ensuite, il va s'habiller. Une fois qu'il est habillé, il attend son petit protégé qui sorte de la chambre. Il se dit que la jeunesse le fait bien dormir à point fermé. Lui-même, jeune, n'a jamais été un grand dormeur. La porte s'est ouverte et apparaît Sébastien, tel un ange, en t-shirt blanc, petite slip noire, pieds nus, les cheveux ébouriffés. On dirait le vrai Saint Sébastien. Un joli petit ange. Il se frotte les yeux, bâille et dit « Salut !»
Monsieur de Jean-Ju, vois ses jambes frêles, ses bras minces, ce corps délicat, la taille bien mise, il est ébloui par cette apparition. Sébastien va vers lui. Monsieur de Jean-Ju lui demande « Bien dormi ?» Sébastien lui dit « Oui ?» Puis de Jean-Ju lui caresse le bras nu. « Tu as faim ?»« Oui ?»« Tu veux prendre une douche, t'habiller, et puis moi, je commanderai le petit déjeuner. Qu'est-ce que tu veux prendre ? Café ? Thé ? Un café ? Bien !» Sébastien va à la salle de bain. Monsieur de Jean-Ju lui dit « Tu veux que je te frotte le dos ?»« Non, merci. » Et il entre dans la salle de bain. Monsieur de Jean-Ju se demande pourquoi il a dit ça. « Je suis un fou, à mon âge. Et puis, j'ai Gilbert à protéger. On ne sait jamais. Il peut arriver quelque chose. » Une demi-heure plus tard, pendant qu'ils prennent leur petit déjeuner, Monsieur de Jean-Ju lui demande « Que comptes-tu faire maintenant ?» Sébastien lui dit « Je vais me rendre au siège pour me présenter. Et toi ?» Puis Jean-Ju lui dit « Moi, je vais me reposer un peu. » Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu, production, mise en scène, Junier Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti.